Donc, on va faire un retour sur le texte dans Genèse qu'on avait commencé à étudier il y a deux semaines. Et avec Michel, la semaine passée, vous avez fait un saut en avant avec la tour de Babel. On revient à un autre épisode assez, disons, coloré. Et c'est Genèse chapitre 6, le début de l'histoire de Noé. Donc, je vous rappelle qu'on avait vu ce fait que les humains ont le cœur peiné lorsqu'ils regardent le monde des humains et se disent « il y a tellement de violence, il y a tellement de haine, il y a tellement de manque d'amour ». Et on avait vu cette chanson célèbre « Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère ». Et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. On avait vu que l'auteur de cette chanson, donc Raymond Lévesque, avait dit quelque chose dans cette chanson qui ressemble à ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 6. Il faut que le monde vive d'amour et il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et cette aspiration de voir le monde changer, ça vient de Dieu lui-même, puisqu'on le voit dans la Bible. Par contre, là où la chanson et où les hommes se trompent d'habitude, c'est que les hommes pensent qu'ils peuvent le faire par eux-mêmes, par leur propre sagesse. Et alors que ce que la Bible dit, ce que l'Évangile dit, c'est qu'on a besoin d'une sagesse d'en haut, d'une transformation qui vient de Dieu pour pouvoir faire partie de la solution plutôt que de continuer à faire partie du problème. Jésus-Christ est cette solution. Il est la puissance et la sagesse de Dieu pour changer nos propres vies et pour que nous devenions des instruments d'amour dans le monde. Donc, tout ça, on avait vu ça il y a deux semaines. Jésus-Christ nous donne la puissance d'aimer comme Dieu aime. Voici le texte, on va le relire. Et ceux qui ont leur Bible, vous pouvez tourner au début de Genèse chapitre 6, au tout début de votre Bible. Donc, Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. » Il y avait des géants sur la terre à cette époque. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. Le prochain verset est assez important parce qu'on va se concentrer surtout là-dessus ce matin. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il en eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Amen. Oui, Seigneur, conduis-nous maintenant pour comprendre, pour appliquer, pour vivre avec toi. Marcher avec toi selon ta parole cette semaine. Guide mes paroles, Seigneur, au nom de Christ. Amen. Alors, on va aller vite ici parce qu'il y a eu un bout qu'on a fait il y a 2 semaines. On veut explorer le constat par Dieu de l'échec de l'humanité et la solution qu'il commence à appliquer. On avait vu le contexte et commencé de voir la nature du problème que Dieu a vu, qui est dit dans le texte. Et on va continuer avec. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans ce passage assez frappant? Le contexte, eh bien, oui, on avait vu l'homme créé à l'image de Dieu. Ça, on l'a vu avant. L'homme reçoit la responsabilité de gérer le monde et d'être en relation les uns avec les autres et avec Dieu. Mais il y a eu une rupture. Et puis, malgré la rupture, Dieu essaye constamment d'aller chercher le cœur de l'homme dans sa grâce. On avait parlé à un moment donné de la grâce universelle de Dieu, puis sa grâce spéciale pour toucher directement le cœur d'un individu. Et on s'était arrêté avec la première partie du constat de Dieu qui est qu'il commence à y avoir des relations pas correctes entre les hommes et les démons. Les anges, c'est cette première partie assez bizarre à propos des filles, des hommes et des enfants qui sont nés. Il est question d'occultisme ici, des démarches pour retrouver une immortalité perdue de la part des humains. Et donc, on essaye de se lier avec les anges. Et tout ça, ça mène à la colère de Dieu et aussi à des problèmes dans la vie des hommes. On a parlé des dégâts causés par les religions occultes, mais aussi on a parlé de qu'on veut être des Caleb. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On veut être des Caleb, c'est-à-dire ne pas laisser ceux qui pratiquent l'occultisme ou nos idées peut-être qui sont influencées par la culture ambiante, nos idées de la toute-puissance de Satan ou de ses démons, ne pas laisser ces fausses idées-là nous empêcher de conquérir notre Canaan, c'est-à-dire de vivre vraiment la vie qu'on a à vivre, de ne pas être sous la coupole de la peur. Là, on est rendu à l'autre constat négatif de Dieu qui est dans le verset 5. Est-ce que tout le monde est avec moi après cette rapide révision? Ça va? OK. Donc, dans cette deuxième partie du texte et au verset 5, dans vos Bibles, Dieu constate le mal qui s'est proliféré dans la population humaine. Puis ce qui est important de voir dans ce verset 5, c'est que c'est à l'extérieur de l'individu dans la société, mais aussi à l'intérieur de l'individu, que le mal a pris racine. Hein? Le verset, il dit, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Wow! Assez dur à lire. Dans le contexte, on voit que plus la population humaine se répand sur la Terre, malheureusement, plus la pratique du mal augmente aussi. La Terre et les animaux sont affectés également. Et c'est peut-être pour ça que Dieu, quand il prend cette décision radicale de nettoyer la Terre, il veut même éliminer les animaux. C'est comme si, bon, les animaux étaient supposés avoir des gérants fiables, les humains, et ils sont pas fiables parce qu'ils commettent le mal. On est obligé de les effacer aussi. Enfin, le texte ne dit pas pourquoi, mais je devine. Nous pouvons deviner que tout ça est supposé bien fonctionner ensemble et ça tourne pas rond. Pourquoi? À cause de l'homme. Alors, on peut réagir en disant, ben Dieu, il est vraiment cruel. Pourquoi? Pourquoi il prend cette décision d'exterminer? C'est là la pensée un peu, la pensée difficile le move de votre intelligence que je vous demande de faire avec moi, c'est plutôt à nous de réaliser que de la perspective de Dieu, le problème, c'est la méchanceté de nous. C'est Dieu qui regarde les humains. Un peu comme Raymond Lévesque, qui regardait le monde de son époque et qui a écrit la chanson « Quand les hommes vivront d'amour ». Dieu est pareil et infiniment plus. Il regarde le dégât, le mal qui se prolifère, et c'est à nous de l'écouter ici. D'écouter ce cœur de Dieu, ce Dieu qui est radicalement peiné par nous individuellement, par nous en tant que société. On avait vu aussi avec Caïn et puis son descendant à Lamech, quelques passages avant. Merci. Merci beaucoup, Gaétan. Que c'est la vengeance qui se développe, plus les générations descendent, et Lamech qui développe comme une genre de clan avec une ville et autres. Et lui, il dit, ben, si jamais quelqu'un me fait du mal, je vais me venger 77 fois. C'est-à-dire, je vais tuer 77 hommes ou êtres humains et enfants. Si jamais quelqu'un me fait du mal, et c'est comme célébré dans le chapitre 5, voilà la direction que vont les humains. Bon, nous pouvons dire aussi aujourd'hui que partout où on regarde, malheureusement, il y a de l'injustice qui s'inscrit dans les règlements, dans les sociétés humaines. Je voudrais donner un exemple qui est vraiment très important et qui fait partie de nos vies de plus en plus. C'est dans nos sociétés la valeur suprême du gain financier. C'est-à-dire que, quand même, dans notre société, c'est presque un absolu de dire si tu peux sauver de l'argent ou si tu peux gagner plus d'argent, ben fais-le. Alors, quand ça devient un absolu, il y a des injustices qui se font les uns envers les autres. Et heureusement, il y a la grâce de Dieu qui fait qu'on va agir pour contrebalancer ça, mais on est constamment confronté à des injustices à cause de cette manière qu'on a de vivre ensemble, où chacun cherche le gain financier. Prenons, par exemple, la question de la technologie. Si une compagnie peut, ou une organisation qui emploie du monde, peut remplacer des ouvriers humains par des machines, bien, de manière générale, ils vont essayer de le faire. Et c'est bon si ça peut sauver de l'argent pour que ceux qui ont des actions, bien, ils vont faire plus d'argent. Et en même temps, il faut se poser la question, chaque fois que quelqu'un perd sa job à cause qu'on a remplacé lui par un robot ou par de l'informatique, il faut quand même se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une injustice qui se fait ici? Bon, ce n'est pas une règle absolue parce que des fois, la technologie crée de l'emploi, mais on est constamment aux prises avec des injustices où les gens perdent leur emploi parce que les compagnies cherchent à faire plus d'argent. Une fois qu'un principe d'injustice s'inscrit dans une communauté humaine, eh bien, ça devient encore plus difficile d'y résister. Chacun y participe inconsciemment. Vous savez sans doute que durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de chrétiens, de chrétiens qui avaient un bon cœur, de bonnes intentions, mais qui vivaient dans des pays, on pense notamment à l'Allemagne, qui ont pris ils ont inscrit dans leur loi des injustices, des violences envers certaines personnes. Ça devient presque impossible de résister quand tu fais partie du système. Tout ça Dieu le voit et le cœur de Dieu pleure. L'Éternel a vu que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Parce que ce n'est pas seulement à l'externe de mon cœur, c'est aussi à l'interne. On pourrait même dire que ça commence à l'interne. Il y a quelque chose qui est arrivé. Malgré que je suis resté image de Dieu, il y a quelque chose qui fait que je suis porté vers le mal, vers une manière de penser, une manière de prendre des décisions qui ne plaît pas à Dieu et qui peut facilement faire du mal aux personnes autour de moi. Donc, n'oublions jamais, on est créé bon et beau et très capable, et en même temps, on est endommagé par la chute, par la rupture, on est corrompu. Et c'est ça, ça fait partie de l'Évangile, ça, c'est la mauvaise nouvelle, que faut que tu réalises que le mal est en toi, puis que tu as besoin de recevoir la guérison de Dieu. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Mon frère, ma sœur, pour faire partie de la solution de Dieu, il faut que tu comprennes que le mal auquel tu participes a deux sources. L'extérieur de toi, la société, peut-être même ta famille, mais l'intérieur aussi, c'est-à-dire, hein, comme Jésus a dit, le péché vient du cœur de l'homme. Il y a quand même une bonne nouvelle que Dieu peut et Dieu veut transformer ton cœur. Mais la question aussi, c'est que, est-ce que une fois que tu acceptes Christ dans ta vie, pour qu'il commence à guérir ton cœur, et il le fait, qu'est-ce qui se passe par rapport à la société? Puis c'est là où je dirais que nous devons, en tant que chrétiennes, en tant que chrétiens, voir les deux aspects de la guérison. À l'extérieur aussi, tu peux agir pour changer le monde, ou tout au moins amener le témoignage du royaume de Dieu, des valeurs de Dieu dans le monde. Je me suis dit, quel exemple je pourrais donner? J'ai pensé à quelque chose qui m'est arrivé à moi. En 1979, j'étais un jeune chrétien, je venais juste de découvrir la bonne nouvelle de Jésus et j'ai dit, oui, Seigneur, je veux vivre avec toi, je veux que tu changes mon cœur. Et j'avais un ami qui s'appelle Guy, qui était dans la même classe que moi. On était à l'Université d'Ottawa, on étudiait le génie, et on avait tous les deux entendu l'Évangile dans le groupe chrétien, puis on avait tous les deux décidé, oui, on veut devenir chrétien. Puis là, à un moment donné, on était dans un cours, et puis il y a un des responsables étudiants qui se lève et qui dit, « Hey les gars, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles dans ces cours-là, ça commence à changer, heureusement. Les gars, en plus, il y avait peut-être deux filles, mais on disait quand même, les gars, juste pour voir, montrer comment on était. Et on a une bonne nouvelle, c'est que l'Association des étudiants de génie, on a organisé une grosse fête, ça va être à telle date, et puis on a trouvé des danseuses. Et on les a embauchés et en fait, il expliquait qu'on aurait des striptease durant notre fête. Et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais ça, je suis vraiment très mal à l'aise avec ça parce que chacun d'entre nous, y compris moi, Marc, le nouveau chrétien, j'ai payé à l'association étudiante pour financer plein d'affaires bonnes, y compris une fête, mais là, est-ce que je suis en train de payer pour les danseuses nues? Et je me suis tourné vers Guy, puis j'ai dit, Guy, on devrait peut-être dire quelque chose, là. C'est pas correct qu'ils prennent cette décision-là. Moi, je suis pas d'accord. Il y en a peut-être d'autres qui sont pas d'accord. On est contre la pornographie, l'exploitation des femmes et tout ça. Puis Guy, lui, il a dit, ben non. Non, 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 il ne faut rien faire parce que ne sont pas chrétiens, ces gars-là. Fait que ça ne sert à rien. Il faut que leur cœur soit transformé par Jésus-Christ. Après ça, on pourrait leur parler, mais comme ils ne sont pas chrétiens, il faut juste laisser faire. Bon, moi, je vous pose la question. Je ne sais pas si quelqu'un a son point de vue là-dessus, ici à l'Oasis. Qui a raison? Parce que finalement, j'ai été tout seul. Guy ne voulait pas me backer, puis finalement, mes protestations n'ont pas été bien loin. Mais qui, pensez-vous, avait la bonne approche? Ou quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que Guy avait raison de dire « ça ne sert à rien d'essayer de changer le monde? » Le monde, il est pécheur, il est pogné dans le péché de toute façon. Ou est-ce que c'est le rôle du chrétien d'essayer de faire quelque chose? Est-ce que quelqu'un aimerait se risquer? Oui! Un peu comme René Lévesque, Raymond Lévesque, pardon. Peut-être René Lévesque aussi. Raymond Lévesque qui dit, on va être capable, ceux qui vivent selon l'amour, on va être capable de rendre le monde un monde d'amour. Puis cette naïveté, hein? Cette naïveté qui est peut-être mal... oui. Donc, peut-être Dieu peut utiliser une telle approche pour amener quelqu'un même à recevoir Christ. Oui, Lise, Jésus était pour ça aussi. Donc, en quelque part, très bien, tu amènes plusieurs points importants, là. Oui. Sûrement qu'elles n'étaient pas contentes, mais elles ne pouvaient rien dire. Elles ne pouvaient pas dire grand-chose. Mais peut-être auraient-elles pu participer avec un groupe qui disait, « Mais hey, ça n'a pas d'allure. On n'est pas unanime là-dessus. Et puis, sauvons notre argent, utilisons-le pour quelque chose avec lequel on est tous d'accord. » Ouais. Ou quelque chose de bien, oui. Dernier commentaire, ça va? Bien, ça donne une idée. Donc, ce n'est pas des questions faciles. Un homme veut se prononcer. Oui, Pierre. Merci. Merci, oui. Dieu, dans sa grâce, vient chercher du monde dans toutes sortes de situations. Ah oui, oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, passons à un autre item un peu délicat. Où est-ce qu'on est rendu dans le... Ça, c'est le verset. Même une église peut faire partie du problème, du mal qui fait partie du monde ou qui est en train de s'enraciner dans le monde. On est quand même une communauté humaine, l'Oasis et n'importe quelle église. Et si on néglige cette nécessité de la repentance interne et externe, on peut redevenir une partie du problème plutôt que de la solution. Alors, on entend à l'occasion, malheureusement trop souvent, des scandales dans les nouvelles d'églises qui font des choses pas correctes, même à Montréal. Alors, évidemment, on pourrait discuter longtemps, est-ce que ce n'est pas les journalistes, des fois, qui montent des choses qui sont fausses? Mais la réalité est que c'est vrai. Les églises peuvent tomber dans le mal. On doit marcher dans la repentance parce que les pasteurs, les anciens, les chrétiens, on est vulnérables. Malgré qu'on est né de nouveau et qu'on a, comme Paul dit, on a crucifié l'ancien homme avec ses anciens désirs et ses anciennes passions, elles sont toujours là. Et c'est pour ça que Paul dit, il faut que tu marches dans l'esprit pour réenterrer à chaque jour l'ancien homme avec son amour de l'argent, son amour du sexe, son amour du prestige, son amour du pouvoir, qui fait que des églises tombent aussi dans le mal et portent le discrédit sur l'Évangile. Et j'ai pensé, bon, énumérons un peu les garde-fous que nous, on a comme église. Juste nous, à l'Oasis, et chaque église ont les mêmes. Premièrement, l'Évangile. Toujours revenir à l'Évangile. L'Évangile nous ramène à notre état de pécheur. On a besoin de Christ pour marcher droit, pour être pardonné et pour accepter aussi nos faiblesses. Deuxièmement, il y a une redevabilité mutuelle dans l'Église. C'est pour ça que je vous dis, venez à l'Assemblée annuelle. L'Assemblée annuelle, c'est un moment où les leaders vont vous dire qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est à vous de lire les rapports et dire, c'est beau, je trouve ça bon. Ou bien, il y a quelque chose que je trouve a besoin d'être discuté. Voyez-vous, cette redevabilité, hein, les leaders aussi sont élus, c'est-à-dire qu'on est en quelque sorte redevable au Seigneur d'abord, mais aussi à vous. J'aime bien le cas de Michel Houle qui a été élu pasteur, puis c'était pour un temps, puis maintenant, il n'est plus pasteur, mais c'est quand même, il demeure un chrétien digne de confiance, un leader, mais c'est pas comme si il se promène en se pétant les bretelles, en disant « je suis le pasteur et je suis pasteur à vie ». Non, on lui a demandé d'être pasteur pendant 14 ans, maintenant c'est le temps pour lui de jouer un rôle un peu différent. Et c'est comme ça. On a une redevabilité mutuelle. Troisièmement, on a une redevabilité comme Église à notre famille d'Église. Donc, si l'Oasis commence à déraper, bien, le bureau du district est là aussi, puis il faut qu'on les écoute. Ils vont nous dire, « Hey, vous dérapez. » Puis dernièrement, il faut que chacun de nous étudie à la maison et en privé la parole de Dieu. Qu'on s'instruise pour que si il y a un enseignement qui dérape, bien que n'importe qui dans l'Église, je m'en fiche si vous êtes un nommé diacre ou ancien ou juste un membre ou même un visiteur, peut venir et dire, « Moi, j'ai un problème, là. Je trouve qu'il y a quelque chose de pas en accord ici. » avec ce que tu enseignes et puis ce qui est dans la parole de Dieu. Alors, hein, on peut faire partie du problème, il ne faut pas, parce qu'on a commencé à faire partie de la solution. Amen? Allons-y pour la troisième et dernier volet. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans ce passage? Alors, comme j'ai dit, il y a des auteurs aujourd'hui qui sont anti-Bible, anti-chrétiens. Ils vont lire des passages comme ça, puis ils vont dire, « Le Dieu de la Bible, il est donc cruel. Hein? » Richard Dawkins, qui a écrit « L'illusion de Dieu », c'est un livre que vos amis athées, si vous en avez, ont peut-être lu, un livre qui a été beaucoup vendu. Il dit que le Dieu de la Bible est rancunier, assoiffé de sang et de massacre. Comment est-ce qu'on répond à ça? C'est vrai que le passage peut choquer, mais n'oublions pas notre point de départ. N'oublions pas ce qu'on a dit au début. Au départ, Dieu n'est pas un Dieu qui veut punir. C'est un Dieu qui est amour. On l'a vu depuis le début du livre de la Genèse. C'est un Dieu qui crée par amour. Et c'est parce qu'il est profondément peiné par le manque d'amour que cette situation drastique se présente au début du chapitre 6. Dieu, non seulement est peiné par le mal, mais il ne peut pas l'accepter dans sa sainteté. Ça, c'est une différence entre Dieu et les humains. On est habitué, nous, à côtoyer le mal à côté de nous et en nous, donc on le tolère. Dieu n'est pas capable de le tolérer, ça le fait souffrir. Il a trouvé une solution pour régler le mal, et ça c'est en Jésus-Christ. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas comprendre cette réaction de Dieu de non-acceptation de ce qui est manque d'amour. Martin Luther King, le grand prédicateur américain, celui qui a prêché pour la justice entre les races aux États-Unis dans les années 60, lui, quand il prêchait l'Évangile, il parlait des deux bras de Dieu dans l'Évangile qui se tendaient vers chaque être humain. Et il y a le premier bras, on va dire le bras gauche, c'est le bras de sa justice. Justice et vérité. C'est un bras qui fait mal, mais qui fait partie de son amour. Le bras qui fait mal, le bras de la justice, c'est son bras qui nomme mon péché, qui va dire mon mensonge, qui va confronter et juger le mal que je fais. Ça fait partie de ma guérison. Heureusement, il y a l'autre bras qui vient me donner cette accolade, qui vient m'embrasser, c'est le bras de son salut. Le bras de l'amour, le bras du pardon, le bras qui fait qu'on est accepté par Dieu. Les deux viennent ensemble à nous et en Jésus-Christ, il y a les deux bras. Hein? Jésus qui est mort à la croix, le péché est puni et c'est Dieu le Fils qui le prend sur lui. Et moi, je peux venir me repentir, n'est-ce pas? Et je peux regarder Christ comme mon miroir et dire, ça aurait dû être moi. Mais il y a l'autre bras qui est là, Jésus qui amène le pardon, l'acceptation totale, l'adoption comme fils, fille, bien-aimée de Dieu. Alors, quand on revient à Genèse chapitre 6, il faut lire le passage en gardant à l'esprit qu'est-ce que Dieu préparait en Jésus-Christ. On peut dire, ah, Dieu, il est méchant, mais c'est une lecture incomplète. C'est comme si on coupait un des deux bras de Dieu et on disait, bien, nous, on avait compris que Dieu était juste amour, alors pourquoi juge-t-il le péché? Donc, quand on va revenir à la question du déluge, on va toujours garder en tête ces deux aspects de l'amour de Dieu, ces deux bras. Le plus important, c'est le bras de l'amour. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a le bras de justice et de vérité. Peut-être que je peux mentionner, juste en terminant cette partie-ci, c'est que... Voyons, y a-t-il un... Non, OK. Oui, qu'il y a... On avait vu ça ailleurs aussi. Il y a une manière, dans le début de la Genèse, de parler de Dieu d'une manière un peu naïve. Et on a dit que l'auteur humain, il fait exprès un peu. C'est une certaine manière de parler de Dieu. Donc, quand on dit « Dieu a regretté d'avoir fait l'homme », je ne crois pas que Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Il est profondément peiné. Il doit faire quelque chose. Il a déjà son plan de sauver l'homme et le déluge, le salut de Noé, tout ça, ça faisait partie. Parce qu'il sait qu'il va amener la solution en Jésus-Christ. Donc, il faut apprendre à décoder un peu les manières de parler des auteurs bibliques qui parfois, on va dire, mais il y a comme une contradiction ici. Dieu regrette d'avoir fait l'homme. Dieu est profondément peiné, il va aller à la prochaine étape de sa solution. Donc, pour conclure, on a vu que il y a ce dur constat de Dieu, de l'échec de l'homme, mais qui est pour nous aussi le début de la bonne nouvelle. Hein? Chacun d'entre nous, on doit recevoir la grâce de Dieu. On doit recevoir Christ. Et j'invite chacun à se tourner vers Jésus-Christ ce matin. Peut-être que tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie. Eh bien, c'est peut-être ce matin que tu vas le faire. Peut-être que tu comprends que toi aussi, tu as commis du mal dans ta vie. Toi aussi, tu as besoin de la solution de Dieu. Tu veux faire partie de ce nouveau peuple de Dieu qui, en Jésus-Christ, veut témoigner de l'amour du Dieu créateur dans le monde. Eh bien, accepte, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Je t'invite à le faire ce matin. Deuxièmement, mets-toi en action. Si tu as reçu Christ, commence à faire partie de la solution à deux bras de Dieu en montrant à ceux qui sont autour de toi la vérité de Dieu, mais aussi et surtout son amour. Et finalement, oups, Oui. Continuons à être une Église qui combat le mal, qui est capable de se regarder elle-même. Et oh oui, ça c'était le dernier point qu'on avait vu il y a 2 semaines. Soyons des Caleb devant les géants sur notre chemin. Alors, s'il y a quelqu'un qui aimerait recevoir Jésus dans sa vie ce matin, ou simplement même dire à Dieu, je ne comprends pas tout, mais je voudrais que tu te révèles à moi. Je voudrais que tu me fasses connaître l'Évangile un peu plus clairement. Bien, je t'invite à prier avec moi. Durant la prière, tu peux même lever la main pour dire, et c'est pour dire à Dieu, Dieu, j'ai besoin que tu te révèles à moi. Puis moi, je vais prier. On va tous courber la tête et prier ensemble. Seigneur Dieu, on a lu un texte difficile, un texte qui parle de ta peine et aussi de ton jugement. Ça vient nous heurter. Mais Seigneur, merci de nous révéler que c'est le premier pas dans quelque chose de merveilleux, qui est que tout être humain, et moi je peux me repentir. Je peux te donner ma vie. Je peux devenir une nouvelle personne à travers ce que tu as fait en Jésus-Christ. Seigneur, transforme-moi. Puis Seigneur, aide chaque personne ici qui se pose une question par rapport à sa vie de tous les jours, une manière de gérer une situation, un problème, comment rendre une situation plus en harmonie avec ton amour. Eh bien, Père, je prie que ton Saint-Esprit se révèle et aide cette personne à savoir quoi faire. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour Christ. Merci pour ton amour, tes deux bras. Puis que dans le temps qui nous reste, que nous puissions t'adorer en musique avec tout notre cœur, dans la joie et dans le remerciement. Au nom de Christ. Amen.